L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
C'est dans un paysage noir de pluie, de défaites et de corps entassés que débute le dernier livre de François Sureau de l'Académie française. L'écrivain nous projette au cœur de la France vaincue de 1870 après la bataille de Sedan. Trois crimes sont commis là-bas pendant que des dizaines de milliers de soldats attendent leur sort désœuvré. Et c'est ici qu'entre en scène un détective mystérieux, Thomas More. Il est le nouveau héros de la toute première série policière de François Sureau qui déploie dedans une mécanique narrative d'une redoutable précision. Alors comment invente-t-on un enquêteur qui intrigue autant que les crimes qu'il poursuit? Comment installer le suspense dans une histoire? François Sureau nous entraîne dans la mécanique du roman policier. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être au micro de l'envie de savoir. Alors, vous plantez le décor de votre intrigue dans la presqu'île d'Ige, sur les bords de la Meuse. Nous sommes en 1870. La question du lieu est très importante dans les romans policiers. C'est avec ça que tout commence.
La question du lieu est importante à double titre. Il y a quelque chose de topographique et puis quelque chose d'historique là-dedans. La question topographique, c'est un paysage qui a toujours parlé à mon imagination. Parce que d'abord, c'est une sorte de ville encagée avec derrière cette espèce d'immense forêt qui est la forêt des Ardennes. Et qui est un peu quelque chose comme... Tout ce que précisément le roman policier vise à découvrir, c'est-à-dire un espace inconnu dans lequel on s'aventure. Mmh. Et donc la forêt me sert un peu à ça. Et puis il y a aussi des souvenirs littéraires. Il y a le souvenir de tout ce qui s'est passé sur les bords de la Meuse, de Rimbaud qui vivait à Charleville, de voilà.
Que vous citez d'ailleurs.
Et puis il y a le côté historique, c'est-à-dire que j'ai voulu placer cette intrigue au cœur d'une guerre, d'un désastre et d'une défaite. À quoi peut rimer d'élucider un crime individuel dans un univers qui est marqué par la masse des morts officiels, c'est-à-dire des morts de la guerre. Eh bien, si, quand même, parce que c'est ça, la civilisation. Il y a une série policière, moi, je suis un grand consommateur de romans policiers, mais aussi de séries policières.
Vous distillez plein de références historiques, mais ce n'est pas pour autant un roman historique.
Non, ce n'est pas un roman historique, c'est juste, comment dire... Il y a, dans le vocabulaire anglo-saxon, il y a un mot que j'aime énormément qui est « suspension of disbelief ». On doit provoquer chez le lecteur « suspension of disbelief », c'est-à-dire on n'est pas porté naturellement à croire ce qu'on vous raconte, mais il faut suspendre l'incrédulité. Et la seule manière de suspendre l'incrédulité, c'est-à-dire de rendre les choses possibles dans le récit, c'est d'une certaine manière la précision des circonstances historiques. Moi, ça m'arrive aussi au cinéma, par exemple. Bon, je dois être un peu perfectionniste, mais par exemple, je vois... je ne citerai pas le film parce que ça porterait modérément, d'ailleurs, préjudice à un réalisateur que j'aime beaucoup. Mais imaginez un film qui se passe en 1914, enfin en 15, en l'espèce, et puis vous avez un officier dans le film, et puis l'officier dans le film, il nous a dit que c'est un Saint-Cyrien et il porte la médaille militaire. Alors ça, c'est pas possible. Et tout de suite, j'arrête d'y croire. Et je ne peux plus croire à une seule phrase qu'il raconte. Pourquoi ? Parce que la médaille militaire, c'est une décoration d'hommes du rang et de sous-officiers. Et si on est officier, il faut être général ayant commandé en chef devant l'ennemi pour la porter. Donc quand on voit un capitaine avec la médaille militaire dont on sait qu'il est sorti de Saint-Cyr et pas Durand, on dit « c'est pas possible, ça ne va pas ». Évidemment, ça ne suffit pas à faire un bon livre, mais je trouve que c'est quelque chose d'absolument nécessaire, et d'autant plus que les intrigues peuvent être parfois échevelées, donc il faut que le réel soit là de manière incontestable.
Mais vous avez fait un petit peu pareil pour ce livre, parce que vous êtes servi d'un imagier pour y puiser de l'inspiration, donc ça c'était nouveau, j'imagine,
oui, collier. Enfin, alors, oui, c'est-à-dire que en fait, je passe l'essentiel de ma vie à lire, et à lire des choses extrêmement variées, ou à faire des recherches sur Internet, et à trouver des choses. Alors, Internet est fantastique pour ça, parce que vous pouvez trouver maintenant des choses que j'aurais mis des années à trouver avant Internet, c'est-à-dire des collections de daguerréotypes de 1870, les images des soldats français au camp de Châlons, comment sont-ils habillés, à quoi ils ressemblent. Je faisais cet imagier, et je m'en servais pour à la fois stimuler l'imagination, et puis aussi pour donner une base précise.
Mmh. Et justement sur cette méthode de travail, parce que c'est toute une autre disposition d'esprit qu'il faut adopter pour l'écriture de ce type de roman, comment votre méthode de travail a évolué? Vous êtes parti de...
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un côté enfantin là-dedans, dont je dois parler. C'est que je pense que les lecteurs de romans policiers appartiennent quand même à deux catégories différentes. Et j'ai écrit un roman pour la catégorie de lecteurs à laquelle j'appartiens, comme si j'étais moi-même le lecteur de mon propre livre. La première catégorie, ce sont les gens qui, en fait, sont placés un peu comme un juge d'instruction, si je puis dire, qui veulent avoir la totalité du dossier. Il y a le crime, et puis il y a les indices, Et au fond, ce lecteur-là veut être mis en situation de résoudre le crime au moins aussi bien que le détective. Il est content quand aux deux tiers du livre, il dit « ça y est, j'ai compris, j'ai fait mon tableau, j'ai tous les indices, c'est machin qui a tué ». Et à la fin, quand le détective dit « c'est machin qui a tué », il est content parce qu'il est arrivé plus vite que le détective. Il y a un côté jeu d'échecs et puzzle plutôt, puzzle. Et il y a une deuxième catégorie, à mon sens, de lecteurs de romans policiers, c'est ceux qui aiment suivre, même de manière assez vague, l'aventure intérieure d'un détective qui, en fait, va dévoiler des pans entiers de la vérité au fur et à mesure que son enquête avance. Et au fond, qui est très content à la fin quand il trouve le criminel, mais qui est plutôt séduit par cette espèce de fraternité confuse qu'il ressent avec le détective. Il l'aime, il l'admire, il aimerait bien qu'il le trouve, et ainsi de suite. Par exemple, moi j'aime beaucoup Conan Doyle. Dans les Sherlock Holmes, ce qui est fascinant, c'est plutôt sa manière d'être. Au fond, j'ai jamais passé des heures à me demander si dans le rituel des Musgrave, le maître d'hôtel était tout non coupable, ou était le fils naturel du Lord Dartmole. On le sent, on se dit ça doit être quelque chose comme ça, etc. Mais ce qui nous fascine, c'est de suivre véritablement. Il y a une série télévisée qui est entièrement organisée comme ça, de manière explicite. Mm-hmm. C'est Columbo. Parce que Columbo, quand vous regardez un Columbo, en fait, vous avez la solution dès le début.
Dès le début, ouais.
Donc, vous savez, mais lui ne sait pas. Mais vous savez. Et donc, ce qui est absolument passionnant, c'est de suivre les espèces de tâtons par lesquels il aboutit à la vérité. Et cette vérité, c'est une vérité humaine qui dépasse la question de la culpabilité du criminel. Parce que vous avez remarqué, quand vous rentrez dans une enquête policière, vous interrogez le passé de la victime, vous demandez qu'est-ce qui a bien pu motiver le fait qu'on essaie de la tuer. Il y a des suspects, quelquefois vous vous trompez de suspects, vous rentrez dans la vie des suspects. Bref, c'est tout un ensemble de vérités humaines cachées qui apparaît tout à coup. Et c'est ça qu'il est passionnant de suivre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est plutôt ça, de manière un peu enfantine et un peu naïve. C'est-à-dire, me fabriquer un détective qui me plaise beaucoup, lui donner des singularités humaines, psychiques, physiques, etc. Et puis le suivre dans cette entreprise de dévoilement de la vérité.
Alors ce détective, il vous plaît beaucoup, il fait partie des ingrédients indispensables à l'intrigue policière, en plus du crime, du motif, des pistes et des fausses pistes. Est-ce qu'il y a selon vous un archétype du bon enquêteur, des caractéristiques qu'il doit absolument avoir pour faire un bon personnage?
Oui, il faut qu'il soit substantiellement distinct de l'environnement. C'est-à-dire que je trouve que pour que ça marche, ça ne peut pas être le policier de base, avec des techniques de base. Pour que ça marche, il faut qu'il présente un caractère d'étrangeté. Le monde réel nous est incompréhensible, la vie des autres nous est incompréhensible, les raisons qui peuvent les amener à commettre un crime sont inconnues. Et donc, je pense que le détective qui attire véritablement l'attention, c'est celui qui est situé légèrement à l'écart, qui a une position presque surplombante, qui n'est pas totalement là. Mmh. Et les grands présentent tous cette caractéristique. Hercule Poirot, parce qu'il est belge, catholique, vaniteux, avec une vie tout à fait étrange, ne disant pas le quart de ce qu'il pense. Sherlock Holmes, parce qu'il est solitaire à l'époque victorienne, vit avec un autre homme, se pique à la cocaïne, à une grand-mère qui est française, qui est quand même pour un Anglais victorien un objet de scandale. Et donc il est à l'extérieur de ça. Le détective qui attire l'attention, c'est ce détective étrange. Alors, ce qui est très amusant dans le roman policier, c'est que un certain nombre... Alors, il y en a un qui ne l'est pas, comme quoi, à toute règle, il faut une exception. Il y en a un qui ne l'est pas, sauf par son côté éponge, c'est Maigret. Maigret est d'abord un personnage officiel, c'est un commissaire divisionnaire de la police judiciaire, un gros gars qui aime la tête de veau, qui fume la pipe, qui a une femme, il n'a pas d'enfant, mais il a une femme, et qui mène une vie raisonnablement bourgeoise. Son étrangeté vient d'autre chose. Son étrangeté, elle vient de l'enfance. Maigret, c'est tout à fait clair dans la série des Maigret, est quelqu'un qui voit l'enfance comme le monde de l'innocence, et qui est face au crime dans la situation d'un vieil enfant, sans cesse surpris par lui, sans cesse dérangé par lui. Et c'est ça qui le rend étrange à la fin. Alors, ce qui est très amusant, c'est que des auteurs de romans policiers ont parfois essayé d'appliquer leur technique à la résolution de crimes effectifs. Mmh. Alors ça, c'est très, très drôle. Par exemple, le plus réaliste des grands auteurs de romans policiers, c'est Simenon. Ouais, il utilise les techniques de la police judiciaire, il écoute les gens, il se mêle aux gens, il fait des interrogatoires, il essaye de les faire avouer, il est classique. Et quand Simenon a essayé d'utiliser les méthodes de son personnage de fiction, le commissaire Maigret, pour résoudre un crime, il a lamentablement échoué. Celui qui n'est pas réaliste du tout dans ses méthodes, qui emploie des méthodes vraiment littéraires, c'est Sherlock Holmes. avec les centres de cigarettes, des tas de choses extrêmement pratiques, si vous voulez, mais totalement inutilisables, parce que presque aléatoires, enfin bon. Et pourtant, Conan Doyle est le seul qui réussit à faire innocenter deux personnes en utilisant la méthode de Sherlock Holmes. Et ce qui est assez amusant, c'est que les auteurs de romans policiers, qui essayent de créer des personnages crédibles, en utilisant quelquefois des éléments non crédibles, notamment dans la méthode, au moins, Conan Doyle est arrivé à leur donner une application pratique qui n'était pas du tout prévue à l'origine, ce qui est assez drôle.
Vous êtes intéressable sur les auteurs, mais j'en reviens à votre livre et votre personnage, Thomas More. C'est aussi le nom d'une personne qui a réellement existé, un humaniste du XVIe siècle. Pourquoi avoir donné ce nom à ce personnage principal ?
Parce que, comment dire, je voulais un nom qui évoque quelque chose. Bon, d'abord, il est assez anglais. Pour moi, le roman policier est un peu anglais, quand même.
D'ailleurs, physiquement, voilà, sur la couverture, il s'inspire d'un acteur...
Il s'inspire de Leslie Howard. Ouais. Et Leslie Howard... Si vous voulez, pourquoi, d'ailleurs, je reviendrai à Thomas More ensuite, mais pourquoi Leslie Howard ? Parce qu'il y a quelque chose de très, très mystérieux chez Leslie Howard, qui est, alors on s'en souvient, l'Ashley Wilkes de « Autant en emporte le vent », mais qui est surtout le Mouron Rouge de ce grand film des années 30. Le Mouron Rouge est l'histoire d'un aristocrate anglais complètement vaniteux, dandy, lâche, ridicule, et d'ailleurs méprisé par tout le monde, y compris sa fiancée, dont on se rend compte progressivement qu'en réalité, il est un terrible agent secret qui passe son temps dans le Paris de la Convention nationale à essayer de soustraire des gens à la guillotine. Et le choc entre ces deux personnalités, la personnalité visible et la personnalité invisible, est absolument extraordinaire. Et Leslie Howard, en plus, avait cette autre caractéristique, c'était un... Alors qu'on le voit comme vraiment l'anglais archétypal, né à Oxford depuis le XIVe siècle, c'était un juif hongrois. C'est un peu le même, un peu comme Stroheim dans La Grande Illusion, oui, d'un type de Vienne. C'est un juif hongrois qui est devenu plus anglais que les Anglais et qui est d'ailleurs mort dans le cadre d'activités qui sont très probablement d'activités d'espionnage en 1941, puisqu'il était dans un avion qui a été abattu par la chasse allemande. Voilà, il est mort très jeune en 1941. Ce personnage, d'abord dans son apparence physique et puis dans sa vie, me stimulait assez. Et quand je me suis mis à essayer d'inventer le Thomas More, à l'imaginer, je me suis inspiré de ça.
Et Thomas More.
Et pourquoi Thomas More ? Parce que, bon, d'abord, ça n'est pas véritablement, ça n'est pas une réincarnation de Thomas More, ça n'est pas le vrai Thomas More. Mais Thomas More m'a toujours. Enfin, c'est un personnage historique qui m'a toujours énormément plu par ce mélange d'humour, de caractère énigmatique et de dévouement à la vérité. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui profère des idées générales, ni à son procès, ni nulle part, ni même au moment de son martyre. Je trouve qu'on vit à bien des égards une époque extraordinairement bavarde et moralisante. Et Thomas More, qui est allé jusqu'au martyr, est allé pratiquement jusqu'au martyr en silence. Et donc, il y a un côté silencieux et dévoué à la cause de la vérité qui me paraissait une des grandes caractéristiques de Thomas More et dont j'ai voulu doter mon personnage.
Et c'est ça qui est d'intéressant dans ce héros, c'est qu'il ne cherche pas...
Non, alors, il ne cherche pas la condamnation.
Non, il voit le crime comme un drame humain.
Il voit le crime comme un drame humain.
Quelque chose de malveillant.
Et c'est d'autant plus vrai qu'en réalité... Souvent, dans le crime, il y a l'intérêt direct. Vous voyez, je tue machine pour en hériter, je tue machine pour ou machin pour épouser quelqu'un d'autre. Enfin bon. Dans mes trois, je ne vais pas divulgâcher, comme on dit à l'Académie française, mais dans mes trois histoires, en réalité, la personnalité de la victime est assez peu importante. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le crime est déterminé par la disposition d'esprit du criminel. Mmh. Et véritablement, ce ne sont pas des actes gratuits, évidemment. Il y a toujours une raison au crime, mais cette raison n'est pas une raison matérielle simple. Et au fond, c'est ça qui fait que quand Thomas More révèle la vérité, il révèle la vérité d'un caractère et la vérité d'une destinée, beaucoup plus qu'il n'envoie un coupable au châtiment.
Il est très doué, ce Thomas More. On ne sait pratiquement rien de lui, sinon qu'il a cette capacité surnaturelle à traverser les époques.
On ne le sait pas. C'est vous qui le savez, parce qu'on insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'en général,
je viens de divulgâcher.
Non, pas du tout. Mais on ne le sait pas directement. C'est-à-dire qu'il ne se présente pas en disant « ça y est, je suis Balsamo ». Enfin, vous voyez, c'est ou le comte de Saint-Germain. On se rend compte, à certains moments... qu'il a une expérience du temps et du passé qui est tout à fait incommensurable et qui est l'une des choses qui lui donne cette espèce de don de double vue tout à fait étrange qu'il a. Mais au fond, on peut lire ce livre en ayant l'idée qu'il s'agit juste d'un personnage un peu énigmatique et talentueux, sans savoir exactement qu'il a cette caractéristique.
C'est vrai. Il y a un peu de vous quand même dans ce personnage.
Un peu de.
De vous. Vous fumez tous les deux la pipe.
Est-ce oui, que c'est le, c'est absolument. C'est le, et on fume le même tabac dans le même genre de pipe. Ouais. Ouais, voilà.
Vous auriez fait un bon détective.
Je ne suis pas absolument sûr.
Non.
Non, et puis j'aimerais beaucoup traverser le temps aussi, mais jusqu'ici, je n'ai pas trouvé le moyen de le faire. Mm. Et vous savez que l'immortalité académique n'offre à cet égard absolument aucune garantie.
Ouais. Non. Le roman policier a longtemps été un sous-genre méprisé, mais en réalité, les frontières sont plus poreuses que ça entre le roman policier et la littérature entre guillemets générale. De grands auteurs s'y sont intéressés, Balzac, Zola, Hugo. Ils ont écrit des œuvres contenant des éléments propres à ce genre-là, sans qu'on parle directement de roman policier tel quel.
J'ai tendance à récuser un peu la distinction entre la grande littérature et l'autre. Parce que ce que vous dites pour le roman policier est également vrai pour quelque chose qui m'a toujours plu, qui est le roman d'aventure. Le Château des Carpates de Jules Verne est un ouvrage absolument magnifique. Et c'est évidemment vrai de Monte Cristo, qui d'une certaine manière peut se lire comme une sorte de roman policier, avec des crimes, avec des... Voilà. Sauf qu'on connaît les intrigues au fur et à mesure de leur déroulement. Je crois que ce qui a longtemps abîmé la figure du roman policier, c'est le côté mots croisés, résolution d'énigmes, trouver ce que le marin a caché. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Sans apercevoir le style
côté
aussi
un peu
derrière.
Mécanique, en dehors même du... Ouais. Voilà. Mais au fond, c'est une forme qui permet une très grande liberté. Mes vieux amis jésuites disaient, à la fin de ma vie, je pense qu'il n'y a qu'un seul mystère, il faisait référence au mystère théologique, je pense qu'il n'y a qu'un seul mystère, qui est le mystère des destinées. Et il avait parfaitement raison. Et donc le roman policier, parce qu'il met en scène un moment cathartique, le crime, les motifs, les passions, etc., permet de se pencher sur cette question de manière, à mon avis, assez saisissante.
Et vous avez dit récemment que vous avez toujours préféré Alexandre Dumas à James Joyce.
Oui, oui, oui.
Ça vous arrive de lire des auteurs contemporains de ce genre-là, aujourd'hui ?
De polar, vous voulez dire ?
Oui.
Non, pas tellement. Les derniers que j'ai lus, c'était P.D. James, que je trouve très, très remarquable. Et voyez, je n'ai pas lu de romans policiers. J'ai regardé énormément, c'est assez drôle d'ailleurs, mais... je n'ai pas lu énormément de romans policiers de ces 10 dernières années, mais j'ai regardé à peu près toutes les séries policières
oui,
de ces 20 dernières années,
jusqu'à
Shetland ou jusqu'à voilà, ouais. Des choses très récentes.
Dans la littérature, on dit que c'est Edgar Poe qui fut l'inventeur du roman policier.
Il y a une question très amusante sur l'origine du roman policier. Mmh. Parce qu'au fond, il n'y a pas vraiment de roman policier avant Gaboriau, Poe, etc., avant 1840. Ce qui a permis à Roger Caillois d'expliquer que le roman policier était en fait contemporain des modifications structurelles intervenues dans la police parisienne. Il en a résulté une controverse avec Borges, qui prétendait que pas du tout. Et donc, ils se sont affrontés durement. Moi, j'ai une idée un peu tierce, c'est-à-dire que Caillois faisait dépendre l'invention du roman policier de la création par Sartine, qui était lieutenant général de police à la fin de l'Ancien Régime, des mouches, c'est-à-dire des espions, répandus dans toutes les classes de la société, etc. Borges lui répondait que c'était absurde et que rien ne le prouvait. Moi, je pense qu'il y a un rapport entre la création du roman policier et le code d'instruction criminelle de 1810 ou 1811, avec la création de la figure du juge d'instruction. Parce qu'au fond, l'auteur de roman policier comme le lecteur de roman policier sont placés dans la position du juge
c'est
d'instruction.
Vrai.
C'est-à-dire qu'il recueille les indices fournis par la police, il réfléchit sur les indices, il se demande s'il faut condamner ou pas, mais ce n'est pas lui qui condamne. Et donc, en fait, l'instruction criminelle contemporaine... voilà. Alors, c'est vrai et pas vrai, parce que, par exemple, les Anglais, qui sont les maîtres du roman policier, ne connaissent pas le juge d'instruction.
Ouais.
Mais enfin, on sent que c'est lié quand même à l'évolution de la législation criminelle à partir de 1850, dans la plupart des pays d'Europe. Et après, c'est vrai que ça suit aussi les techniques. Par exemple, énormément de séries policières contemporaines mettent en scène les aspects de médecine légale, l'ADN... et tout ce genre de choses.
En tout cas, c'est un genre qui se prête bien à la plasticité, dans le sens où il s'adapte très bien aux séries, toutes celles que vous avez citées, à la littérature, aux BD aussi aujourd'hui.
Absolument, ouais.
Et puis, on voyage beaucoup, et ça sera une de mes dernières questions, parce qu'au fond, Le genre policier, c'est aussi un genre du voyage. Déjà, parce que c'est peut-être un genre qu'on emporte aussi à la plage quand on part en vacances. Ouais. Mais il nous fait voyager.
Il fait voyager.
Dans tous les sens du terme.
Alors, il fait voyager. Alors, il y a une chose, puisque vous avez remarqué que j'ai beaucoup parlé du roman policier en général. J'ai toujours du mal à parler des livres que j'ai écrits. Je pense que la règle de base, c'est que si on pouvait parler des livres qu'on a écrits, on ne les aurait pas écrits. Enfin, En revanche, j'aime bien parler de la manière de les écrire. Bon. Oui. Et ce qui est fascinant quand on écrit un roman policier, c'est les détails. Parce que c'est un univers de détails. On ne peut pas se gourer sur l'heure à laquelle le couteau a été... Voilà, Madame Machin, le colonel Moutard, avec le chandelier, comme dans Cluedo. On va se tromper sur les... Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'en particulier, quand on place un roman policier dans une période de temps relativement lointaine, comme 1840, vous êtes affronté à une masse de détails que vous devez régler, qui vous amène à faire énormément de recherches d'ailleurs, et qui sont passionnantes parce qu'ils font rentrer dans ce monde-là. Par exemple, comment correspondait-on entre le champ de bataille de Sedan et les préfectures de police de Paris en 1870 ? Réponse par le télégraphe. À quoi ressemblait un télégraphe de campagne ? Il a fallu que je me demande à quoi ressemble un télégraphe de campagne.
Vous l'avez mis dans votre imagier, voilà, celui-ci.
Et je l'ai mis dans mon imagier. J'ai trouvé des images, des plans de télégraphe de campagne, savoir comment faire fonctionner le télégraphe de campagne. Ou bien, vous allez de tel point à tel autre à cheval. Comment vous faites ? Est-ce que vous avez des relais, comme des relais de poste du XVIIIe siècle ? Comment pouvez-vous changer de chevaux ? Quel temps faut-il pour aller de Laon à Sedan à cheval ?
Donc vous avez fait une deuxième enquête en fait.
Vous êtes
en
permanence obligé de faire une enquête pour valider la totalité des aventures de vos héros.
Voilà. C'est éreintant comme.
C'est
passionnant.
Ce qui est passionnant, c'est il y a deux choses passionnantes dans le roman policier. Il y a ça et l'autre chose qui est le type de relation que ça induit avec les lecteurs. C'est une chose dont j'avais jamais fait l'expérience jusque-là.
Vous êtes plus proche des
lecteurs. Oui, parce que jusque-là, bon, j'ai écrit des livres et je recevais des courriers de lecteurs qui me disaient j'aime bien, j'aime pas, comme c'est bien, comme c'est nul, enfin. Ils disent plutôt comme c'est bien en général, parce qu'ils ne prennent pas la peine d'écrire si tout ça. Mais là, c'est la première fois que je reçois des lettres fascinantes qui montrent que le roman policier est un genre coopératif. C'est-à-dire, ah mais j'ai beaucoup aimé, j'ai quand même des doutes, page 44, parce que franchement, l'indice que Thomas More trouve là, vous ne nous l'aviez pas présenté avant, donc c'est pas de jeu. Ça, c'est le lecteur de type 1. Ou bien des choses encore plus drôles. C'est-à-dire, bon, c'est bien là, mais quand même, moi j'aimerais bien que pour le prochain, vous mettiez en scène la manière dont ma grand-mère est morte, histoire que je sois sûr que c'est pas mon oncle qui l'a tuée. Enfin, les gens vous proposent des morts violentes, des manières de tuer, vous soumettent des cas qu'ils aimeraient bien que le détective résolve. Ça, c'est assez fascinant. Bref.
Tout ça, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez suivi toute l'enquête de la chouette, du jeu de piste de la chouette d'or.
La chouette d'or, bien sûr. Oui, j'ai un ami qui était, mais qui a passé les deux dernières années de sa vie, en dehors de son travail au ministère des Finances, à essayer de résoudre le problème de la chouette d'or. Et ce machin coopératif, derrière tout ça, il y a une vraie question qui est qu'il existe un mystère du monde. Vous comme moi, comme tout le monde, on ne pense pas que ce qu'on voit suffise à épuiser ce qui est. Et donc, toutes les formes qui nous permettent d'explorer le mystère du monde, de la chouette d'or à la résolution du crime dans le roman policier, sont véritablement des moyens pour atteindre un graal du sens de l'existence qui toujours se dérobe et qui, au fond, d'un autre côté, rend notre présence sur la Terre particulièrement stimulante et agréable.
D'où l'intérêt de ne pas mépriser ce genre de littérature.
Absolument.
Les prochains tomes des aventures de Thomas More sont déjà écrits ?
Oui, enfin en tout cas un assez grand nombre, 3 ou 4 quoi.
Ils sortiront quand ?
Le prochain sort en décembre et se passe à Salonique en 1913-1914, juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Et on ira aussi en Hongrie, je crois.
On ira en Hongrie au moment de la chute du mur de Berlin, on ira en France pendant la débâcle en 1940, on ira à Darjeeling en Inde en 1848, au moment de l'annexion des provinces orientales de l'Empire des Indes par la Compagnie des Indes. On ira, j'espère, si Dieu me prête vie, on ira à Long Island, enfin Babylone, dans l'État de New York, en 1972. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui m'amuse beaucoup dans cette activité, c'est que je place mes intrigues dans des endroits que j'ai aimés et connus. C'est le cas pour Sedan, c'est le cas pour l'Inde, c'est le cas pour Salonique, les Balkans, et c'est le cas de la Hongrie où j'ai habité au moment de la chute du mur, et ça sera le cas avec l'Amérique, puisque j'étais jeune homme en Amérique en 72-73, entre la fin de la guerre du Vietnam, les concerts de Simon et Garfunkel au Madison Square Garden, les vapeurs de hashish répandues partout, les pattes d'éléphant.
Ça rendra l'intrigue un peu plus réelle.
Voilà. un peu plus, en tout cas, un peu plus récente, quoi.
Et en attendant, le premier volume des Aventures de Thomas More est à découvrir aux éditions Gallimard, à la librairie de l'Institut, bien sûr, et dans toutes les autres également. Un grand merci, François Sureau.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.